Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
L'économie entre en campagne. Cette semaine, nous nous penchons sur les grands débats économiques qui agitent l'Europe à un mois des élections européennes. Nous reviendrons sur la politique migratoire qui entre en collision avec la demande de plus en plus forte de main-d'œuvre sur le vieux continent. Nous évoquerons l'industrie européenne de la défense qui cherche encore son unité. Mais d'abord, retour des règles de Maastricht. Ça chauffe pour le climat. C'est notre sujet jusqu'à 15h. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Et pour en parler, nous accueillons Jezabel Coupé-Soubeyran, économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, autrice du « Pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société » avec Pierre Delandre et Augustin Cerciron, paru cette année aux éditions Les Liens qui Libèrent. Également avec nous, en duplex de Bordeaux, Edwin Le Héron, économiste, professeur des universités à Sciences Po Bordeaux, auteur de cet ouvrage « À quoi sert la BCE ?» paru à la Documentation française et qui va être réédité chez Dunod dans les mois prochains sous le titre « La BCE face aux crises ». Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Edwin Le Héron et Jezabel Coupé-Soubeyran.
Bonjour Tiffen.
Merci bonjour, à tous merci les deux. De m'accueillir.
C'est un grand plaisir de vous accueillir tous les deux. Alors d'abord, quelle place les règles budgétaires européennes occupent-elles dans la campagne actuelle pour les élections européennes qui se tiendront du 6 au 9 juin prochain ? C'est un sujet clivant, Jezabel Coupé-Soubeyran.
Ah oui, je pense qu'on peut dire en effet que c'est un sujet clivant. C'est-à-dire que à partir du moment, si vous voulez, où on est sensible au sujet de la fracture sociale, où on pense qu'il faut réparer la fracture sociale dans tous les pays de l'Union européenne, et à partir du moment où l'on considère qu'il est urgent de répondre à la crise écologique, eh bien, on prend conscience de la nécessité de dépenses publiques massives partout, dépenses publiques qu'il faudrait pouvoir réaliser à l'échelle de l'Union en mutualisant certaines. Donc, bien sûr que c'est un sujet clivant. Quand on maintient le carcan budgétaire dans lequel les finances publiques européennes sont actuellement, ça ne peut que faire débat.
C'est un sujet qui fait débat entre ceux qui défendent un retour à la responsabilité budgétaire, Edwin Le Héron, et ceux qui, à l'inverse, appellent à un assouplissement pour ne pas tomber dans une politique d'austérité.
Oui, il y a d'ailleurs une forme de schizophrénie, hein, puisque on reproche très fortement à l'Europe cette vision trop restrictive de Maastricht qui nous imposerait l'équilibre budgétaire, les règles d'or avec le traité de stabilité et de coordination de gouvernance de 2012, et donc une Europe qui est vue comme nous empêchant en gros d'avoir un choix budgétaire libre, et puis en même temps on reproche au gouvernement de ne pas respecter ces mêmes traités et de faire beaucoup trop de déficits. Donc on a à la fois une attaque en incompétence du gouvernement actuel, qui est plutôt sur une ligne politique de respect des traités et qui en même temps ne les respecte pas, et donc et en même temps une demande de financement qui devrait de facto aboutir à relâcher la contrainte. Donc on a une relative schizophrénie, comme habituellement avec les questions européennes. L'Europe est à la fois le problème et la souveraineté nationale serait une sorte de solution fantasmée.
Alors en l'occurrence, Bruxelles vient de remettre en application les règles budgétaires qui limitent donc la dette publique des États membres à 60% du PIB et leur déficit à 3%. Elles étaient suspendues depuis 2020 face au double choc de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Edwin Le Héron, le retour à ce corset budgétaire créé au début des années 90 était une exigence des pays dits frugaux ?
Oui, alors disons qu'on a eu un double effet, hein. C'est-à-dire que avec la crise de 2008, on a eu des politiques budgétaires qu'on a libérées, notamment face à la question des dettes souveraines, de la crise des dettes souveraines de 2011. Et donc, il a fallu trouver des solutions budgétaires pour donner un peu de souplesse aux États, et en même temps une politique monétaire extrêmement expansive avec en particulier des taux d'intérêt qui ont convergé vers zéro. Et de facto, la Banque Centrale Européenne s'est mise à faire de la politique budgétaire, alors que c'est pas son rôle, puisqu'en amenant des taux extrêmement bas et en mettant même des taux négatifs sur la monnaie banque centrale détenue par les banques, elle a poussé les banques à acheter massivement de la dette publique, dont les taux sont passés quasiment au territoire négatif, comme en France, la dette à 10 ans. Ça a permis aux États de s'endetter en gagnant de l'argent. Donc c'est une situation tout à fait, évidemment, anormale. Et donc, on a vécu un moment, et la crise du Covid ne l'a fait que renforcer, où on a dit aux États, on libère les contraintes budgétaires, allez-y, et en plus, ça ne vous coûtera rien, et vous ferez même des économies. Donc, il y a eu une sorte de période un peu bénie, où évidemment, tout le monde a dit que c'était propre à sa politique et à sa bonne gestion, et personne n'en a dit, c'est grâce à la BCE, à l'Europe. Et donc, on est sorti en 2022 avec un épisode inflationniste un peu fort, qui n'est d'ailleurs pas lié à ces politiques, qui était lié essentiellement au problème de choc avec l'Ukraine et hausse des coûts pétroliers et aussi hausse des matières premières et plus généralement des produits agricoles. Et donc là, évidemment, la Banque Centrale Européenne est revenue à ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire lutter contre l'inflation et à remonter les taux en passant brutalement de 0 à 4,5%, hein, avec des suites de hausses assez importantes entre 0,25 et 0,75. Et donc, et en plus, eh bien évidemment, on a sifflé la fin de cette liberté budgétaire. Donc, on a à la fois aujourd'hui un retour à une demande d'équilibre budgétaire et en même temps une hausse très importante des taux qui, évidemment, pèse sur le coût budgétaire.
Retour de la responsabilité budgétaire, mais une dose de flexibilité a été introduite, comme l'explique le commissaire européen Paolo Gentiloni. Écoutez.
De manière générale, la dimension irréaliste et la complexité excessive ont eu pour conséquence que les règles n'ont pas été réellement appliquées. Il n'est pas acceptable que l'Union européenne ait des règles budgétaires uniquement sur le papier. Chaque État membre décidera de sa propre trajectoire budgétaire pour les 4 ou 7 années à venir. Comme il s'agit de vos propres décisions, si vous vous en écartez de manière significative, la Commission est autorisée à faire appliquer ces décisions et à décider si leur application est clairement justifiée. Avec une approche plus progressive, je pense que nous pouvons réaliser ce qu'il était malheureusement impossible de réaliser avec les règles existantes. On n'atteindra pas demain les fameux 60%. Je pense qu'il faut être transparent sur ce point. Mais si la trajectoire passe d'une hausse à une baisse, ce sera important pour les marchés et pour notre union. Pour autant, nous devons aussi encourager la croissance pour soutenir notre système, qui est un système basé sur l'aide sociale, mais aussi pour faire face à l'immense montant d'investissements qui sont nécessaires si nous voulons être pris au sérieux vis-à-vis de ce que nous disons sur les transitions écologiques et numériques.
Paolo Gentiloni, le commissaire européen à la fiscalité, à l'union douanière, à l'audit et à la lutte antifraude dans une interview d'Euronews de juin 2023. En quoi les règles budgétaires européennes ont-elles été assouplies, Isabelle Coupé-Soubéran?
La vérité, c'est qu'elles ne l'ont pas été beaucoup, d'accord. Donc, on s'attendait à une réforme de plus grande ampleur, c'est-à-dire qu'on s'attendait à une réforme permettant, en effet, d'assouplir les règles budgétaires, permettant à la fois de garantir le redressement des finances publiques et puis permettant d'encourager les investissements publics. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme qui vient assouplir un peu les règles ? La réduction exigée en cas de dette excessive est certes assouplie et beaucoup plus progressive qu'auparavant, puisque ça pourra se faire jusqu'à 7 ans. Il y aura jusqu'à 7 ans pour retrouver, si vous voulez, la norme budgétaire.
Contre 4 initialement.
Exactement. Les États vont devoir présenter une trajectoire d'ajustement de leurs finances publiques sur au moins 4 ans, donc avec un peu plus de temps. Mais les pays qui seront en déficit excessif vont devoir réduire leur déficit structurel, c'est-à-dire celui qui est pas, si vous voulez, perturbé par la conjoncture de moins 0,5% par an. Alors avec un petit peu de flexibilité là aussi si les taux montent, mais on l'a dit tout à l'heure, en fait, ce qui demeure dans cette réforme, ce sont les règles budgétaires avec les seuils historiques, c'est-à-dire le 3% de maximum de déficit en pourcentage du produit intérieur brut et le 60% maximum de dette. Et si vous voulez, il n'y a aucune raison véritablement de graver ces chiffres dans le marbre. L'absurdité, elle réside pas dans le fait d'installer des règles quand on n'a pas d'union budgétaire et qu'il faut de fait coordonner les politiques budgétaires. Mais l'absurdité réside dans le fait de maintenir ces chiffres comme s'ils étaient gravés dans le marbre, alors que tout ça, si vous voulez, c'est une relation qui forcément évolue entre la dette publique, le taux de dette publique, le taux de déficit public, la croissance, le taux de croissance du produit intérieur brut et les taux d'intérêt.
Donc un assouplissement, mais pas de remise en cause de la philosophie de ces règles budgétaires européennes, Edwin Le Héron.
Oui, on peut même d'ailleurs rappeler que ces règles ont été assez fortement durcies en 2012 avec le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance, puisqu'on y a rajouté une règle d'or, c'est-à-dire un déficit structurel qui, pour les pays assez fortement endettés, notamment au-dessus de 60% comme la France, est de 0,5%. Ça veut dire quoi, un déficit structurel? Alors ça, on ne le sait pas très bien en tant qu'économiste, mais ça a été défini comme, en gros, si on était sur une croissance d'équilibre, en ce que l'on ne sait pas très bien définir, mais enfin, eux l'ont défini en gros comme une croissance non inflationniste, eh bien, on devrait être à 0,5%. C'est-à-dire que le 3% de déficit est vu comme de la relance conjoncturelle, mais donc non pas comme une situation normale. Et ça, c'est un vrai problème pour la France, parce que la France, on a un déficit structurel qui est plutôt autour de 2,5, 2,8. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans les 3% quand tout va bien, mais tout juste. Et donc, on est très loin de ces 0,5%. L'idée, c'est que effectivement, ça donnerait une marge de manœuvre aux pays qui auraient tout d'un coup une difficulté de pouvoir passer de 0,5 à 3. Et donc, la France a un peu cette difficulté de baisser ce déficit structurel.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des vrais progrès quand même, pardon de vous couper, Edwin Le Héron, avec le fait que les trajectoires exigées seront différenciées pour tenir compte des spécificités de chaque pays? Il y a quand même une volonté de soutenir la transition, les transitions vertes et numériques, en introduisant cette petite flexibilité.
Oui, alors c'est un peu ce que disait Jézabel, et c'est ce qu'on dit depuis souvent, c'est-à-dire, plutôt que de ne pas respecter des traités stupides, on aurait mieux fait d'en signer des bons. Et donc, l'Union européenne n'est pas stupide, donc quand tout d'un coup les traités et ces normes, qui sont évidemment rigides et qui n'ont pas de grand sens, eh bien, on s'aperçoit que ce serait contre-productif de les respecter, eh bien, elle dit, vous n'êtes pas obligé de les respecter en ce moment, parce qu'on est une session exceptionnelle. Et puis, dès que ça va un peu mieux, elle les reprend comme une sorte de dogme, alors qu'en fait, ça n'en est pas vraiment. Mais elle comprend bien qu'elle est obligée de mettre de la marge. On est monté à 113% d'endettement en France, on ne va pas descendre à 60 en 4 ans, ce serait un tel choc récessionniste. Donc, ils mettent de la marge parce qu'ils se rendent bien compte que de toute façon, le respect direct des traités est impossible. Donc, c'est là où on retrouve un peu cette vision ordo-libérale allemande, qui est de dire l'important, c'est d'avoir des règles, et puis de s'y tenir. Et puis, la vision plus nouvelle-keynésienne, plus flexible à l'américaine, où on dit l'important, c'est plutôt d'être flexible que de respecter des règles qui sont souvent contre-productives à court terme. Donc c'est toujours cet arbitrage long terme-court terme, d'Allemands qui disent, une dimension plutôt à l'Allemande, qui disent non, l'important c'est le respect des règles à long terme qui donne la crédibilité, et puis une approche plus à l'américaine qui dit, l'important c'est surtout d'être flexible à court terme pour faire face à différents chocs. Et en gros, l'Union européenne hésite entre les deux, et elle donne la flexibilité quand il le faut, et puis elle rappelle une sorte de dogme des règles un peu après, sachant, et je terminerai juste là-dessus, que évidemment aujourd'hui c'est surtout les pays du Sud qui posent un problème de déficit public par rapport aux pays du Nord, donc il y a une sorte de rupture Nord-Sud qui évidemment en termes de géopolitique de l'Union Européenne n'est pas excellente.
Mais ce qui est sûr, c'est que ces règles budgétaires font débat depuis longtemps, c'était déjà le cas en 1992, écoutez.
Il y a un establishment qui à 99% milite pour le oui. Il est temps que les citoyens de base puisse s'exprimer. J'ai été le premier, le 7 avril dernier, à m'exprimer sur le traité de Maastricht et à dire pourquoi, comme socialiste, comme républicain aussi, je ne pouvais pas me reconnaître dans ce traité, parce que l'aspect économique a été entièrement gommé. On a oublié que le traité de Maastricht comportait des critères extrêmement stricts, monétaristes, pour l'accès à l'union économique et monétaire. On va obliger tous les pays d'Europe à réduire leur déficit budgétaire, leur endettement public. Ça se traduira par des coupes budgétaires et il en résultera une aggravation du marasme et du chômage. Même un rapport du FMI paru au mois d'août a insisté sur cet aspect. Et si aujourd'hui une majorité d'ouvriers et d'employés est pour le non, ce n'est pas un hasard. C'est qu'ils savent que cette Europe par la monnaie libérale n'est pas la leur. Je n'ai pas attendu, croyez-le bien, les prises de position de Jean-Marie Le Pen qui sont purement opportunistes. Je crois au contraire que c'est Maastricht, avec le chômage, qui va favoriser la montée de l'extrême droite. Et il y a une sorte de couple pervers entre Maastricht et cette mécanique déflationniste, libérale, productrice de chômage, et puis la montée d'un courant nationaliste xénophobe dans lequel, évidemment, moi, je ne me reconnais pas du tout.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous parlons des règles budgétaires européennes et de leur impact sur le climat avec les économistes Gisabelle Coupé-Soubéran et Edwin Le Héron. On vient d'entendre Jean-Pierre Chevènement dans une archive de TF1 du 28 août 1992. Que vous inspire ces propos, Gisabelle Coupé-Soubéran?
1992, c'est effectivement l'année du traité de Maastricht, comme disait Jean-Pierre Chevènement. Et les règles budgétaires dont nous parlons sont issues de ce traité, c'est-à-dire que ça faisait partie des critères de convergence qui avaient été introduits dans ce traité pour le passage à l'euro. Et ensuite, on les a conservés. Et il faut savoir en fait que ces deux règles budgétaires, le 3% maximum de déficit, le 60% maximum de dette publique en pourcentage du produit intérieur brut, tout ça, finalement, c'est un peu issu quand même de calculs de coin de table. Il y a un Français, Guy Abeille, qui était un ancien chargé de mission du ministère français des Finances, qui avait été interviewé en 2010 et qui racontait un peu l'histoire, en fait, de ces règles, et notamment du fameux 3%. Et il expliquait qu'en fait, ce 3%, eh bien, c'est lié à la situation française au tout début des années 80. 1980, les dépenses publiques de la France sont en train de s'envoler et il y a un déficit de 100 milliards de francs à l'époque qui se profile. Ce 100 milliards de francs, ça correspondait à peu près à 3% du produit intérieur brut de l'époque. Et donc on a agité ça comme chiffon rouge pour essayer d'avoir de la discipline budgétaire. Et après, cette référence-là a été conservé, alors que ça ne fait absolument aucun sens. Et lui-même le disait, d'accord? Donc lui-même qui a travaillé sur ces critères de convergence, disait que c'était dépourvu, en fait, du moindre sens économique que de conserver telle quelle cette référence cardinale.
Et en même temps, n'est-il pas nécessaire de fixer des seuils budgétaires de déficit et de dette, Edwin Le Héron, dans un contexte en Europe où l'écart se creuse entre les pays dits frugaux, dont les dettes publiques restent relativement maîtrisées, et les États du sud de l'Europe qui ont des dettes qui dépassent les 100% de leur PIB?
Ben oui, et contrairement, il y aura un point de désaccord que j'aurai avec Jean-Pierre Chevènement, c'est que pour moi, une Europe monétaire n'est pas une Europe obligatoirement, et même surtout monétariste ou libérale. Au contraire, les libéraux considèrent que la monnaie est neutre, elle n'a aucun sens, et que c'est pas pour eux un élément important, et tous les monétaristes étaient absolument contre cette union monétaire. Non, la monnaie est un élément de liberté et de souplesse dans la politique économique, ou en tout cas peut l'être. On peut aussi l'empêcher, comme toute politique, c'est une question. Mais en tout cas, la monnaie donne plutôt de la flexibilité. Alors ensuite, bien évidemment, c'est ce que vous dites, quand on a fait le choix d'une monnaie fédérale, avec une construction fédérale autour d'une banque centrale européenne fédérale, dans laquelle on abandonnait les souverainetés monétaires nationales pour une souveraineté européenne, ou en tout cas fédérale, à 20 pays aujourd'hui, eh bien, on avait un problème, une dualité entre des politiques budgétaires qui restaient nationales, aujourd'hui 20 politiques budgétaires nationales, face à une politique monétaire fédérale européenne. Et donc, on s'est dit, comment on va coordonner ça? Comment on va coordonner ces 20? La bonne solution aurait été, eh bien, de dire, on va les coordonner par une politique budgétaire fédérale où on va se mettre d'accord avec de la souplesse entre, quitte ensuite à avoir une part nationale très importante. importante, mais en tout cas, on aurait eu une gestion et notamment la capacité d'émettre de la dette fédérale. Ça aurait été un choix. Mais à l'époque, il fallait convaincre la Banque centrale allemande, la Bundesbank et Delors ne pouvaient pas aller très loin dans les discussions, dans les négociations, sans qu'il y ait rupture de ce côté-là. Et pour la monnaie unique, on a sacrifié cette vision au profit d'une vision beaucoup plus là, ultra-libérale ou en tout cas ordo-libérale. C'est-à-dire qu'on dit, on va imposer des règles budgétaires à chaque État et ces règles vont faire une coordination. Alors, on voit bien qu'on ne coordonne pas vraiment par des règles. Il faudrait que tout le monde respecte une certaine discipline dont on voit qu'elle n'a pas de sens pour que l'ensemble ait du sens. Et en plus, face à une monnaie dont le taux devient fédéral unique, alors qu'on peut avoir des chocs asymétriques. On peut avoir un choc en Espagne qui n'est pas le même qu'en Allemagne. Donc dès le début, l'architecture était mauvaise et tout le monde le savait. En gros, les européistes très favorables à l'Europe disaient, on voit que c'est foireux. Et donc, à la prochaine crise, qu'est-ce qu'on fera? On sera obligé d'aller plus loin dans la fédéralisation de l'Europe et donc de développer cette fameuse Europe budgétaire fédérale qui sera la dernière pierre. C'était l'idée un peu constructiviste. On crée des systèmes qui sont pas parfaits, qui sont incomplets, avec une monnaie incomplète. Et puis, ça crée une crise. Et la crise fait qu'on va dans le bon sens. Et l'Europe s'est toujours construite comme ça, selon Jean Monnet.
Sauf qu'aujourd'hui, on reste dans ce déséquilibre, Isabelle Coupé-Soubéran, entre une union monétaire qui est construite, mais une union budgétaire qui reste à construire.
Exactement, c'est-à-dire que la dernière pierre dont vient de parler Edwin, finalement, n'a jamais été posée. Donc, ce qu'il vient de dire est tout à fait essentiel parce que on touche au défaut de construction de l'Union européenne. On s'est unis sur le plan monétaire, mais on a refusé d'emblée, on a refusé d'emblée l'union bancaire, c'est-à-dire que on a refusé au départ d'organiser à l'échelle européenne la surveillance des banques et l'éventuel sauvetage des banques en cas de crise, et on a refusé l'union budgétaire. Alors, l'union bancaire, elle s'est imposée à l'Europe au moment de la crise des dettes souveraines. Là, on a réalisé qu'en fait, les sauvetages ne pouvaient plus se faire à les sauvetages des secteurs bancaires, ne pouvaient plus se faire à l'échelle d'un pays. Donc, l'union bancaire est arrivée par la crise des dettes souveraines, mais l'union budgétaire, on l'attend toujours. Et on a beau avoir ouvert quelques brèches, pendant la crise sanitaire, cette union budgétaire n'est toujours pas là, d'où ces règles budgétaires qui persistent et qui sont malheureusement gravées dans le marbre.
Mais en effet, quelques brèches ont été ouvertes, et notamment cet endettement en commun.
Il nous faut évidemment accroître nos capacités d'investissement en commun. On a besoin, je le disais, d'investir plusieurs centaines de milliards d'euros par an en plus. Alors la réponse qu'on a eue en européen ces dernières années, elle a été de donner des flexibilités nationales, les aides d'État. Et c'est pas une réponse durable parce qu'elle fragmente le marché unique. Il nous faut de la capacité commune. Et donc il nous faut à nouveau un choc d'investissement commun. Ce qui supposera de rouvrir la question si délicate des ressources propres de l'Union. J'y suis favorable et je pense qu'on doit avoir des ressources propres supplémentaires sans jamais peser sur les citoyens européens. Taxe carbone aux frontières, recette du système européen d'échange de quotas carbone, taxer les transactions financières comme le fait la France, imposer les bénéfices des multinationales là où ils sont réellement réalisés. Et puis, au-delà de la politique monétaire, au-delà de notre politique budgétaire commune, qui doit être beaucoup plus ambitieuse et forte par ce plan 1000 milliards supplémentaires, il nous faut davantage mobiliser l'investissement privé.
Voilà un extrait du discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. C'était il y a 10 jours. L'Union européenne ne dispose en effet que d'un très faible budget, environ 1% du PIB de la zone. Il faut aller vers plus de dettes communes, Edwin Le Héron.
Alors oui, il y avait d'ailleurs dans le projet de Delors initial une limitation, alors qui était décidée pour 5 ans, on était monté jusqu'à 1,27% du PIB, sous la pression des Anglais, on est redescendu à 1, il voulait même descendre à 0,85, mais lui voulait rajouter un 1% en plus pour l'investissement européen. Et malheureusement, ce plan a été bloqué. Et aujourd'hui, c'est ce dont parle le président Macron, c'est de dire qu'il faudrait qu'on ait une capacité d'investissement parce qu'on a des investissements directement européens. La transition écologique est une question européenne. Et donc, il y a deux manières. Un, on pourrait avoir des recettes européennes. Donc, il parle par exemple du taxation de produits qui sont non écologiques et qui sont de la concurrence absolument déloyale. Et au nom d'une concurrence libre et non faussée, il est tout à fait normal d'avoir avoir des politiques de contrôle aux frontières, notamment pour éviter cette concurrence absolument faussée par les gens qui ne respectent pas les contraintes environnementales. Donc ça, ça augmenterait les recettes et ça permettrait des dépenses d'investissement. Deux, on pourrait avoir un fonds d'investissement financé par de la dette européenne, comme on l'a fait pour le Covid. Donc ça a été fait un moment, mais évidemment comme une norme absolument ou une condition exceptionnelle sur lequel on est revenu. Aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour. Et c'est dommage. Alors, une des raisons, c'est évidemment, c'est que l'Allemagne freine beaucoup. Pourquoi ? Ben parce que France plus Allemagne, c'est à peu près 45% du risque de la dette européenne. C'est, les Allemands sont en premier. Donc ils se disent, si on commence à prendre de la dette européenne, et si un jour il y a un problème de remboursement, ben c'est nous les Allemands qui en premier rembourserons. Et ils sont donc extrêmement réticents pour des problèmes aussi de loi. Pour un endettement d'un Allemand doit passer devant théoriquement le Parlement allemand. Et là, une dette européenne endetterait quand même les Allemands sans passer par le Parlement. Alors tout ça a été à peu près réglé en termes juridiques, mais c'est vrai qu'il freine un peu des cas de fer pour cette possibilité de financement d'investissements européens globaux.
Mais il y a quand même une prise de conscience de la nécessité de créer une forme d'union budgétaire, Isabelle Coupé-Soubéran, dans le contexte de la transition écologique et surtout depuis que le pacte vert européen s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Objectif aussi de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Désormais, on entend de part et d'autre des propositions pour doter l'Union européenne de ressources propres.
Alors, vous voyez, si on repart là du discours d'Emmanuel Macron, en fait, il parle pas vraiment d'union budgétaire. Il parle, certes, de nouvelles recettes communes, aller chercher de nouvelles assiettes fiscales dans la taxe carbone, dans les marchés de quotas carbone, dans la taxation des transactions financières, dans l'imposition des bénéfices des multinationales. Très bien, recette commune, mais il n'évoque pas véritablement, d'une part, si vous voulez, un budget commun digne de ce nom. Il y a quelques années, Thomas Piketty avait proposé un traité pour la démocratisation de l'Europe. Il reprend ce sujet-là avec Antoine Vaucher dans un numéro récent de l'économie politique. C'est « Quelle Europe face au désordre mondial ?» Et ils reviennent sur le « Quel pacte budgétaire et fiscal européen face aux crises ?» Eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, il faudrait un budget de l'ordre de 4% du produit intérieur brut de l'Union européenne. 4 fois plus que ce qu'il y a. Donc ça, si vous voulez, on l'entend pas beaucoup. Et par ailleurs, eh bien, si on écoute Emmanuel Macron, si on écoute Mario Draghi, qui a donné un peu l'avant-goût d'un rapport sur lequel il travaille, qui va sortir au mois de juin, on écoute également le rapport, ce qui se dit du rapport l'État. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend un diagnostic commun. Leur diagnostic, c'est attention, l'Europe est beaucoup trop fragmentée, ça la rend mortelle. Et en cela, ils ont raison. Mais en fait, quelle réponse ils apportent à cela ? Ils disent pas union budgétaire, ils disent union des marchés de capitaux. D'accord. Et donc, leur solution, si vous voulez, c'est étendre les marchés de la dette européenne. Mais c'est et donc essayer d'étendre ces marchés-là sans comprendre finalement que la condition nécessaire pour cette union des marchés de capitaux, c'est précisément l'union budgétaire. Et on peut craindre qu'en fait, sans union budgétaire, eh bien l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire l'intégration véritablement, si vous voulez, des marchés de capitaux européens, n'aura tout simplement pas lieu. Et donc on aura du mal, évidemment, à financer ce qu'on a besoin de financer.
Qu'est-ce que vous en pensez, Edwin Le Héron ? Est-ce qu'il faut aller vers l'union budgétaire ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt, en effet, mobiliser l'investissement privé, comme le réclame la droite ?
Alors, c'est vrai que Maastricht, pour moi, a développé une vision financière qui correspondait à la financiarisation du capitalisme des années 80 et 90, qui a biaisé beaucoup la construction européenne. Et donc, c'est toujours un peu le mantra, quand il y a un problème, il suffirait de créer un marché, on trouverait la solution. C'est la suite de la phrase de Reagan, l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Et donc, à l'inverse, le marché, c'est la solution à tous les problèmes. Et donc, on a un problème écologique. écologique, on crée un marché du CO2, etc. On a un problème de financement, on crée un marché. Et ça, évidemment, c'est pas du tout une approche acceptable. Bien évidemment que les marchés financiers seraient très demandeurs d'une dette européenne avec risque européen, comme ils sont très demandeurs d'une dette américaine, parce que ce serait un actif sans risque, avec des montants importants. Donc il est clair que marché serait demandeur. Mais dès qu'on est, et qu'on est uniquement, et ça a été le choix de Maastricht, financé par les marchés, on est aussi soumis à l'évaluation des marchés, donc au risque de marché, et c'est ce qui a provoqué la crise de 2011, où tout d'un coup, la dette italienne n'a plus été considérée comme de la dette allemande, la dette grecque encore moins, elle a fini par faire défaut. Et donc, se soumettre au marché, c'est aussi se soumettre à des risques de marché dont on voit qu'ils sont souvent spéculatifs et extrêmement déstabilisants. Et puis, comme Jezabel l'a dit, l'important, c'est d'avoir des projets européens. Et donc, si on crée une dette européenne, elles doivent être adossées à du collatéral, à des projets européens, ce qui permettrait d'ailleurs de donner du sens à l'Europe et que cette Europe soit incarnée par ces projets. Il faudrait donc qu'il y ait aussi des projets européens qui soient conçus comme tels. Alors, certains projets, notamment dans la transition écologique, ne sont pas obligatoirement des projets très rentables, donc des projets qui intéressent les marchés financiers, ou en tout cas à court et moyen terme. Ils sont sans doute très rentables socialement à long terme, mais pas obligatoirement à court et moyen terme. Donc là aussi, on a une contrainte, c'est que les marchés financiers, souvent, ont une vue qui est court-moyen terme et ne voient pas obligatoirement les enjeux à long terme. On le voit sur le prix du CO2, c'est un prix qui est tout à fait sous-estimé par rapport aux conséquences, aux externalités économiques. Donc, effectivement, le tout-marché est un vrai problème et c'est bien par des choix politiques et avec un budget politique et des enjeux européens qui seraient assumés que, les Européens et les Français se réincarneraient et recomprendraient le projet européen. Donc je pense que politiquement, c'est absolument nécessaire aussi. Et puis deux, ça donnerait une vraie cohérence et on pourrait vraiment gérer cela avec une cohérence globale et pas seulement selon une logique de marché dont on voit que souvent, c'est des logiques de court et moyen terme.
Des choix politiques comme de nouveaux impôts à l'échelle européenne, par exemple, cette taxe européenne sur les transactions financières, ça vous paraît une bonne idée, Jezabel Coupé-Soubéran ?
Ah oui, aller chercher effectivement des nouvelles recettes à dimension européenne, c'est absolument indispensable. Mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire que même si on fait ça, ça ne suffira pas. Il faudra aller plus loin, c'est-à-dire aller véritablement accroître le budget de l'Union européenne et mettre les États en capacité de lever une dette commune et même aller chercher en fait des solutions au-delà de la dette. Edwin le disait, tous les investissements dans la transition ne sont pas rentables. Alors, pour ceux qui sont rentables, les fonds privés pourront faire le job et il faut mobiliser davantage les fonds privés européens vers des investissements européens. Mais pour les investissements dans la transition notamment, qui ne sont pas rentables, là, on a besoin de fonds publics. Et si on maintient le carcan budgétaire, si on n'a pas d'union budgétaire, les fonds publics, on ne pourra pas les mobiliser suffisamment.
Pour financer la transition écologique, il y a le levier budgétaire et puis il y a la monnaie. Edwin Le Héron et Jezabel Coupé-Soubéran, restez avec nous, on va en parler. Mais d'abord, Europe, c'est aussi le nom d'un groupe de rock suédois qui, en 1986, a atteint la première place dans 25 pays avec cette chanson.
We're
The Final Countdown d'Europe sur France Culture. Entendez-vous l'écho? Règles budgétaires, ça chauffe pour le climat, point d'interrogation, c'est notre sujet. Aujourd'hui, les économistes Jésabelle Coupé-Souberon et Edwin Le Héron sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide de Denis Forget et mise en onde par Ludovic Auger. Alors comment financer la transition écologique? La politique monétaire a un rôle à jouer, c'est le point de vue que vous défendez, Jésabelle Coupé-Souberon. Et pour vous, ce levier monétaire n'est pas assez exploré?
Oui, complètement. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne devrait pas s'empêcher d'aller chercher des solutions monétaires complémentaires de ce que nous venons d'évoquer. On a évoqué la possibilité de nouveaux impôts communs. Bon, très bien, sauf que il va être difficile d'y arriver. On a évoqué la possibilité d'une dette commune. Mais même s'il y a eu cette expérience-là pendant la crise sanitaire, on n'est pas sur le chemin de l'union budgétaire. Je pense qu'il faut le réaliser. Et donc, vous voyez que si on reste finalement dans un carcan budgétaire, on n'aura pas les moyens de financer les investissements nécessaire à la transformation écologique et par conséquent, il faut aller chercher du côté de la solution monétaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais ça veut dire que c'est un complément absolument indispensable. Après tout, les banques centrales du monde entier se sont mobilisées pendant la crise financière, pendant la crise sanitaire. Dans ces situations de crise-là, on est allé chercher la solution monétaire. D'accord. Eh bien, face à la crise écologique, il faut également aller chercher la solution monétaire. Après, il y en a plein.
Alors justement, concrètement, comment la politique monétaire peut-elle jouer un rôle pour que les flux financiers s'alignent sur des trajectoires bas carbone? Il y a cette idée proposée par 30 économistes dans une tribune parue dans Le Monde début mars que la Banque Centrale Européenne applique des taux d'intérêt moins élevés au refinancement des prêts bancaires alloués à la transition écologique. Alors, il faut que vous nous expliquiez tout cela, Edwin Le Héron, et que vous nous disiez, si vous le voulez bien, si vous considérez que c'est une bonne idée.
Oui, alors avant de répondre directement à votre question et ce qu'on a dit tout à l'heure sur le volet budgétaire de la Commission, c'est que non seulement on n'est qu'à 1%, ce qu'on a dit, mais c'est que ce 1% est obligatoirement voté à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de déficit. Or, de plus en plus, ce qu'on demande, c'est de l'investissement européen. Or, l'investissement qui est du long terme, eh bien, n'a pas à être contraint par des ressources préalables, qui soient des ressources budgétaires ou même de l'épargne. C'est là où la monnaie peut jouer son rôle. La monnaie est une anticipation de création de richesse, une anticipation de valeur. Et donc, la dette pour du financement long terme est justifiée puisqu'on va créer des moyens de financement qui vont créer cette valeur à moyen et long terme. Et c'est là où on pourrait très bien décomposer un budget, je dirais, de fonctionnement européen qui, à la limite, pourrait être à l'équilibre s'ils y tiennent, mais d'avoir un budget d'investissement européen qui, lui, serait financé avec ressources, notamment d'endettement et donc monétaire, et notamment par une possibilité de financement par la Banque Centrale Européenne et là qui serait évidemment pour des projets de long terme, qui seraient des choix. Alors ensuite, sur cette politique monétaire, bien évidemment on peut faire, et Christine Lagarde a reconnu que la politique monétaire devait avoir une relation, elle a une relation avec le public, avec les gens de la rue, puisque la BCE n'a pas de compte à rendre, ni à la Commission, ni au Conseil Européen, ni au Parlement. Elle doit se faire entendre, mais il n'y a aucun contre-pouvoir. Elle a son pouvoir directement des traités, donc directement des peuples. C'est ce que dit la BCE. Donc elle a des comptes à rendre directement au peuple. Or, la question de la transition écologique, elle reconnaît que c'est quelque chose qui préoccupe les peuples. Donc, elle se lève finalement appropriée comme étant un objectif qui serait légitime.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut changer le mandat de la BCE pour qu'elle n'ait plus seulement un mandat de garantie de la stabilité monétaire, mais aussi d'investissement dans la transition écologique, Edwin Le Héron?
En tout cas, on n'est peut-être pas obligé de changer le mandat, puisque Christine Lagarde reconnaît qu'elle doit le faire. Donc bon, bah, si elle le fait sans qu'on lui change son mandat, on n'a pas besoin de s'embêter à changer le mandat. Même si, effectivement, moi je suis pour que le mandat serait déterminé par le Parlement, par des votes au Parlement, comme aux États-Unis par le Congrès, et qu'on ait un contrôle démocratique par le Parlement des objectifs, et pas quelque chose dans des traités qui sont quasiment impossibles à bouger. Mais ça, c'est un autre débat pour une autre émission. Donc, elle accepte de considérer que ça fait partie d'elle, mais de ses objectifs aujourd'hui légitimes. Mais est-ce que les taux d'intérêt sont l'instrument qui permettra de gérer ça? Ben là, comme Isabelle l'a dit, j'en doute tout à fait. Les marchés financiers, si on reprend la chanson d'Europe tout à l'heure, ils sont incapables de déterminer le compte à rebours de la transition écologique et à partir de quand on va tous griller sur le barbecue. Donc, si on attend que les marchés financiers fixent des prix qu'on appellerait en finance des valeurs fondamentales, c'est-à-dire les vraies valeurs qui intégreraient tous les risques, y compris les risques écologiques de très long terme, etc., on va attendre très longtemps. Et on attendra un moment où ce sera trop tard. C'est tout le problème, c'est que les marchés financiers ne sont pas capables de déterminer des risques à très long terme comme ça, dont même les scientifiques d'ailleurs ont beaucoup de mal souvent à vous donner des trajectoires relativement précises. Donc, comme en plus la Banque Centrale intervient sur les taux courts, les taux de court terme, et non pas les taux longs, en plus elle n'est pas directement avec ses instruments en action sur ses objectifs de très long terme. On voit aujourd'hui par exemple la dette publique de l'État à 10 ans reste à des taux faibles, alors que la Banque Centrale Européenne a monté à 4,5% des taux courts. La dette à 10 ans aujourd'hui en France sort à moins de 3%.
Donc on ne va pas agir sur les taux d'intérêt pour vous, Isabelle Coupé-Soubeyran. Il faut aller beaucoup plus loin dans ce rôle de la politique monétaire dans la transition écologique.
Alors, je crois qu'en fait, si vous voulez, il y a vraiment un large éventail de mesures possibles. Il y a effectivement, il y a tout un espace disponible dans le mandat de la Banque Centrale Européenne pour verdir la politique monétaire et notamment pour appliquer ces taux différenciés, c'est-à-dire faire en sorte que les banques qui ont quotidiennement besoin de monnaie centrale puissent se la procurer moins cher lorsqu'elles investissent dans la transition, lorsqu'elles financent la transition, que quand elles continuent de financer les énergies fossiles. Pour faire ça, pas besoin de changer le mandat de la Banque centrale. Mais ça, à quoi ça va servir si on différencie les taux de refinancement des banques? Ça va servir en fait à réorienter un peu les flux de crédit bancaire. Où vont les flux de crédit bancaire? Vers des investissements qui restent rentables. C'est-à-dire que les banques n'iront pas financer des projets d'investissement qui ne sont pas rentables. Donc ça, c'est bien, si vous voulez, cette proposition-là, c'est bien pour des investissements dans la transition rentable financièrement, des investissements dans les énergies renouvelables, par exemple.
Et d'ailleurs, si la BCE le fait, pardon de vous couper, c'est moins pour des objectifs écologiques que pour des objectifs de stabilité financière.
En fait, elle peut le faire à la fois pour un objectif de stabilité monétaire, de stabilité financière et pour des raisons écologiques. Les banques centrales sont tout à fait conscientes du fait que le dérèglement climatique, ça affecte les prix, d'accord ? Dans l'inflation qui est revenue, il y a une part qui est liée au dérèglement climatique. Donc en fait, ça touche au cœur de leur mandat. Et c'est pour ça que c'est tout à fait compatible avec le mandat. Il y a plus de sujet là-dessus. Elles peuvent le faire aussi au nom de la stabilité financière, parce que si les banques restent à financer des actifs fossiles, d'accord, si elles continuent de financer les énergies fossiles, si elles restent à leur bilan avec des crédits, des titres complètement carbonés, eh bien, à un moment donné, si vous voulez, ces titres ne vaudront plus rien, d'accord ? Donc, on ira au-devant d'une crise financière. Donc, si elle veut prévenir cela, eh bien, il faut aussi qu'elle agisse pour décarboner les bilans bancaires. Donc, il y a plein de raisons qui font que la Banque centrale peut tout à fait verdir sa politique monétaire sans rien changer au mandat. Enfin, c'est pas elle qui décide de changer de son mandat, mais en tout cas, elle peut agir vraiment dans le cadre de son mandat. Mais ça, encore une fois, ça ne servira, en fait, qu'à améliorer la capacité de faire des investissements rentables. Il y a plein d'autres investissements à réaliser qui ne le sont pas, pour lesquels on a besoin d'autres solutions.
Edwin Le Héron.
Oui, parce que le maximum qu'elle ait fait au moment du Covid, c'est quand les taux étaient à zéro, de refinancer les crédits aux entreprises qui avaient augmenté les crédits donc refinancés par les banques qu'elles auraient accordés aux entreprises à moins 1%. C'est-à-dire que si les banques avaient augmenté leurs encours de crédit aux entreprises, elles pouvaient se faire refinancer à moins 1%. Donc un écart de 100 points de base. Et ça, c'était le maximum. Pour la dette souveraine, c'était que 25 points de base. Or, ce n'est pas du tout un différentiel potentiel suffisant pour faire un choc de transition écologique. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, bien sûr que ça va dans le bon sens, ça permet de rentabiliser des investissements qui ne le seraient peut-être pas, mais on est sur des écarts de l'ordre de 1%. Peut-être.
Oui, moi je suis complètement d'accord.
Oui, 1-2, ce n'est pas suffisant. Alors deux, on peut jouer sur ce qu'on appelle le qualitative easing, la politique de structure de bilan de la banque, sachant que ça serait beaucoup plus efficace. Et Christine Lagarde a dit qu'elle le ferait. C'est-à-dire de refuser au refinancement, d'ailleurs de refuser tout ce qui est crédit carboné, hein, c'est pas mettre un taux normal, c'est je ne refinance plus ces crédits. Donc si les banques financent ce type de crédit, elles doivent les porter et les supporter jusqu'à l'échéance. Et en revanche, je ne refinance que des crédits verts, etc. C'est-à-dire j'augmente dans ma structure de bilan la part du vert. Et là, ça aurait un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus incitatif. Tout le problème, c'est que on retrouve, et là c'est un peu la vieille question, qu'est-ce qu'un crédit vert ou un crédit pas vert ? La BCE dit, ce n'est pas à moi de le définir, donc on demande aujourd'hui à la Banque des règlements internationaux, et pour l'instant, on n'a pas sur les marchés financiers des choses très très claires, puisque les Allemands disent, bah, pour moi, le gaz c'est vert, parce que ça me permet d'enlever le charbon, je réduis mon impact carbone par 10, donc c'est vert, mais en fait c'est du carboné. Les Français disent, bah, c'est le nucléaire qui est vert, etc. Donc il y a des enjeux géopolitiques, géo-industriels qui sont pas très clairs, et donc pour l'instant, le vrai enjeu aussi est celui-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on irait dans ce sens-là, c'est qu'est-ce qu'on appellerait vraiment des crédits verts. Même des fois, des scientifiques de la transition écologique ont du mal à voir exactement. Voilà, aujourd'hui, on a misé, par exemple, sur la voiture électrique. Beaucoup de scientifiques disent la voiture électrique, c'est sans doute pire que la voiture thermique. Donc, on est en train de faire un choix qui va aggraver le problème et non le solutionner.
France Culture.
Combien t'as payé ça ?
87 000. Papa, si tu me laisses encore acheter de la peinture, on liquide le paquet en moins de deux.
Entendez-vous l'écho ?
Achète n'importe quoi. C'est sûr, ils vont changer la monnaie.
Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à parler des leviers budgétaires et monétaires pour financer la transition écologique en Europe. Alors, Jézabel Coupé-Soubéran, vous proposez-vous la création d'une monnaie centrale sans dette qui serait affectée au financement de réalisations, je vous cite, indispensables humainement, socialement, écologiquement. Comment est-ce que cela marcherait ?
Alors, ça fait partie de l'éventail, d'accord ? C'est une des propositions quand on élargit bien grand l'éventail. Si vous me permettez, juste, il y a quelques solutions intermédiaires aussi. Hein, c'est-à-dire que, outre le qualitative easing dont parlait Edwin, qui consisterait à décarboner un peu le bilan de la Banque centrale, ce que pourrait faire aussi la Banque centrale, au fond, c'est verdir des opérations d'achat de titres de dette publique, comme ce qu'elle avait fait pendant les crises financières et sanitaires. Elle a acheté des titres de dette publique qui n'étaient pas des titres émis pour faire des investissements dans la transition écologique, mais vous voyez qu'on pourrait transposer ça et on pourrait imaginer ce type de programme. Ça fait partie en fait des solutions qui seraient envisageables, qui n'imposerait pas de changer grand-chose au mandat de la Banque centrale. Certes, ça imposerait un petit peu de coordination entre État et Banque centrale. Alors certains diraient attention à l'indépendance de la Banque centrale, etc. Mais au fond, ça, ce serait envisageable. Si on ouvre encore un petit peu l'éventail, puis comme ça va me permettre d'arriver à notre proposition dans le pouvoir de la monnaie. Si on ouvre encore un petit peu l'éventail, en fait, eh bien, la Banque centrale pourrait directement financer les États, comme ça se faisait jusque dans les années 70.
Sauf que les traités l'interdisent.
Alors, sauf que le traité l'interdit. Donc là, grand chamboulement, là il faudrait changer le traité. Même chose si on faisait en fait des dons de monnaie centrale aux États. Parce qu'il faut quand même réaliser, si vous voulez, que quand les banques centrales, quand la BCE a refinancé les banques à taux négatif, la différence entre ce que les banques ont emprunté et ce qu'elles ont remboursé, au fond, c'est de la monnaie centrale sans contrepartie financière. C'est moi ce que j'appelle de la monnaie centrale sans dette. Cette monnaie centrale sans dette, elle existe déjà. Qui en a profité ? Les banques uniquement. Quand aujourd'hui, les banques reçoivent des intérêts de la banque centrale sur les réserves qu'elles ont accumulées sur leur compte à la banque centrale, pareil, c'est de la monnaie centrale sans contrepartie financière. C'est de la monnaie centrale sans dette. Nous, ce que nous disons, c'est cette monnaie centrale sans dette, eh bien, émettons-la à un peu plus grande échelle, à moindre échelle que ce qui se faisait pendant le quantitative easing dans la période de crise sanitaire. Mais faisons, admettons, des émissions de 20 milliards d'euros par mois d'émissions donc de monnaie centrale sans dette. Affectons cela à des investissements de transition non rentable, ce que l'on ne parviendra pas à financer autrement. Parce que, bien sûr, si vous voulez, on peut différencier les taux de refinancement des banques, mais ça, on l'a dit tout à l'heure, ça financera des investissements rentables. On peut également faire entrer dans la danse, bien plus qu'aujourd'hui, des banques publiques de financement. Mais ça permettra de financer du rentable à long terme. Ce sont des financeurs patients. Mais pour le non rentable, on a besoin de beaucoup de fonds publics. Et là, on a besoin d'innover. Et avec une solution comme celle-ci, avec de l'émission de monnaie centrale sans dette affectée en fait à des investissements portés par tout un ensemble d'acteurs ayant la caractéristique d'être des projets d'investissement indispensables à la transition mais non rentables, eh bien on aurait là une solution complémentaire qui permettrait d'accélérer la transition.
Edwin Le Héron, qu'est-ce que vous pensez de ce qui apparaît comme un basculement vers un pan non marchand de la création monétaire ?
Oui, alors d'un point de vue technique, c'est réalisable. Le projet de Jezabel est tout à fait réalisable d'un point de vue technique. Du point de vue géopolitique et politique européenne, je pense que c'est totalement imposable aujourd'hui dans la logique des rapports de force. Et même, je dirais, dans la logique plus globale de ce que doit être, pour moi, les relations économiques dans un État. Dans tous les États vraiment puissants, prenons les États-Unis, eh bien, entre le gouvernement, le pouvoir public, et la Banque centrale, le partenaire senior, celui qui a réellement le pouvoir, c'est toujours le gouvernement. La Banque centrale peut avoir une autonomie, peut être en partie autonome, en partie indépendante, mais in fine, elle est toujours au service du public. Et donc des pouvoirs publics, et donc du gouvernement et du politique. Or, en Europe, on est dans une version inversée, puisqu'on s'est interdit cette construction politique européenne au niveau budgétaire, c'est-à-dire un Bruxelles puissant, et donc on se retrouve avec un partenaire senior qui devient la Banque centrale. Mais pour moi, ce n'est pas à la Banque centrale d'avoir ce rôle fondamentalement. Qu'elle accompagne des choix politiques, je suis d'accord, mais elle ne pourra que les accompagner et non pas être maître du jeu. Et elle se l'interdira, pas savoir les traités lui interdisent, mais elle se l'interdira pour quelque part une bonne raison, c'est que ce n'est pas à elle de faire ses choix politiques, elle n'en a d'ailleurs absolument pas la légitimité. Et donc, à nouveau, la solution n'est pas à Francfort, la solution est à Bruxelles. Par contre, si à Bruxelles, on a politiquement tout d'un coup un consensus pour aller plus loin, là la BCE peut être un instrument au service de ce projet. Mais je ne crois pas à un système inversé, et d'ailleurs les Allemands, les traités, et pas seulement les Allemands, d'ailleurs une bonne partie des pays du Nord, et pas seulement, s'y opposeraient totalement, et je crois même le gouvernement français ne développera pas ça. Donc en termes de géopolitique, je pense que se battre pour ce type de solution, ça a peu de chance à mon avis. On le voit aujourd'hui dans les programmes politiques des partis verts, ils sont finalement très peu portés par la population, et donc on n'a pas une majorité de la population qui serait capable de faire une pression démocratique radicale là-dessus. Alors je terminerai en disant, c'est qu'aujourd'hui on est dans cette sorte de contradiction où évidemment on a un retour aux normes de l'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire moins de dépenses publiques, on en a parlé avec le respect des règles, à un moment où on a beaucoup plus besoin de financement public et notamment avec des choix politiques. La transition écologique, ce n'est pas le marché qui pourra la gérer, c'est ce qu'on a vu. Mais on n'a pas que ça. On a aussi le fameux réarmement militaire face à la Russie. Là aussi, ce n'est pas au marché de décider de comment se fera ce réarmement.
Et on en parlera dans notre émission mercredi.
Et ces deux dimensions sont évidemment liées, et la monnaie à avoir beaucoup là-dessus. J'y rajoute à un moment où, avec l'inflation, les taux d'intérêt sont remontés fortement, et donc ça enlève une capacité de facilité budgétaire à la dépense publique, et notamment monétaire, parce que ça coûte plus cher et on a un risque de taux d'endettement. Eh bien, on a un vrai problème. Et comme en plus on est dans une dimension libérale, on n'a pas d'imposition qui est gérée au niveau fédéral. fiscale, et donc il y a une pression au moins 10 ans de, d'impôts à chaque fois. C'est ce qu'on
alors c'est, un, c'est, donc, c'est tout un sujet que le sujet de l'harmonie fiscale, l'harmonisation fiscale en Europe. Mais j'aimerais faire réagir Jezabel Coupé-Soubeyran à vos critiques autour de la faisabilité de son projet.
Oui, moi ce qui me semble infaisable, c'est le financement de la transition en l'état, en fait, hein, de notre système monétaire et financier. Donc on a besoin effectivement d'une transformation monétaire pour transformer la société et la rendre plus respectueuse, en fait, des limites planétaires. Vous voyez, même si en fait on avançait davantage sur le chemin de l'union budgétaire, financer des investissements non rentables par de la dette, si on peut le faire un peu, tant mieux, mais on ne pourra pas le faire complètement parce que précisément, une dette, ça se rembourse. Il faut de la croissance pour rembourser une dette. Pour rembourser une dette publique, il faut de la croissance, même quand cette dette publique est mutualisée. D'accord ? Et s'il faut toujours plus de croissance pour financer la transition, c'est quand même un peu le serpent qui se mord la queue. C'est en cela qu'on a besoin, en fait, de réfléchir à des solutions complémentaires. Et pour rebondir sur le problème de gouvernance que mentionnait Edwin, bien sûr, si vous voulez que ce type de schéma alternatif pose des questions sur le plan de la gouvernance. Et si Edwin nous lit, d'accord, et j'espère qu'il va nous lire, j'espère qu'il va lire Le Pouvoir de la Monnaie, eh bien, il verra qu'en fait, le schéma de gouvernance que nous proposons, c'est un schéma de gouvernance collégiale, ouverte, démocratique, avec un institut d'émission qui demande en fait à la Banque centrale d'émettre de la monnaie sans dette. À cet institut d'émission doivent siéger à la fois en fait des politiques, des représentants de la société civile, des scientifiques, et on ne fait pas aller en fait cette monnaie sans dette à l'État, on la fait aller à une société financière publique qui alloue des subventions et qui elle-même a une gouvernance démocratique. Donc on est tout à fait conscient de cette question de gouvernance et en fait, on progresserait, je pense, par rapport à la gouvernance technocratique qui est celle aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne.
Mais ça pose une question centrale que vous avez déjà soulevée, c'est celle du financement de la transition écologique qui doit se jouer à Francfort peut-être, siège de la BCE, à Bruxelles, siège de la Commission Européenne, ou à Strasbourg, siège du Parlement Européen. Avant de vous faire conclure, j'aimerais vous faire entendre un extrait de la formidable série Parlement diffusée sur France TV. Dans cet extrait, Samy Cantor, qui est joué par Xavier Lacaille, est un jeune assistant parlementaire qui voit un jour son rêve se réaliser, celui justement de travailler à la Commission européenne.
Dis-moi Gilles, tu sais comment on démissionne d'ici ?
C'est un traquenard.
Comment ?
Je vois pas d'autre explication.
Hein ? De quoi tu parles ?
C'est comme quand Pinocchio, il va vivre au pays des jouets,
ouais.
Puis après on le transforme en âne, puis il finit par travailler dans un cirque.
Ah oui.
Personne veut de toi à la commission. C'est un piège, Samy.
Mais oui, Gilles, t'es parano, mon vieux. Tu sais à qui je dois envoyer un mail ?
On me l'a proposé plein de fois à la commission.
Ah bon ? C'est marrant. Pourquoi t'y es pas allé, alors ?
J'y vais quand je veux, à la commission.
Ah bon. Bah, qu'est-ce que t'as, Gilles ? Tu pleures ?
Non. Je vais bosser.
Qu'est-ce que tu fous, Gilles ?
Je contourne ton ego.
Voilà un extrait de la série Parlement. On arrive vraiment au terme de cette émission. En quelques mots, quelles sont, selon vous, justement, les politiques budgétaires et monétaires à mettre en œuvre pour financer cette transition écologique en Europe ? Évidemment, vaste question, mais en quelques mots, Edwin Leron, puis Jezabel Coupé-Soubeyran.
Oui, je reprendrai ce que disait Keynes de l'État. Il parlait plutôt de l'homme d'État. Il dit il faut qu'il y ait quelqu'un à un endroit qui pense le tout à long terme, c'est-à-dire qui pense le problème dans sa globalité et à long terme. Et très clairement, pour la question de la transition écologique, le marché est incapable de penser le tout et à long terme.
Et donc, Jezabel Coupé-Soubeyran, pardonnez-moi, c'est vraiment.
Moi, je dirais, si vous voulez, n'opposons pas le budgétaire et le monétaire. On a besoin des deux. Et la la société doit s'approprier, la société européenne, si tant est qu'on puisse parler d'une société européenne, ce qui est en tout cas toutes les sociétés en Europe doivent s'approprier le pouvoir de la monnaie. Aujourd'hui, il appartient aux banques commerciales, aux technocraties des banques centrales. Il faut que la société s'approprie ce pouvoir-là,
merci
transformer
beaucoup.
La société.
Merci Isabelle Coupé-Soubéran et Edwin Le Héron d'avoir été avec nous. Edwin Le Héron, je renvoie les auditeurs à la BCE face aux crises, votre ouvrage qui va paraître dans quelques mois chez Duno. Isabelle Coupé-Soubéran, il y a aussi Parlons Banque en 30 questions qui a été coécrit avec Christophe Nijdam et qui apparaîtra à la Documentation française. Merci également à Benjamin Ponce-Delray de France Bleu Gironde qui a assuré ce duplex. C'est la fin de notre émission. Demain, politique migratoire vers une pénurie de main-d'œuvre. Point d'interrogation, nous en parlerons avec Ekram Bouptam et Hélène Thiollet.